Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère de bon poil comme chaque samedi matin entre 9h15 et 10h sur RTL. Aujourd'hui, on vous propose une émission tout sauf barbante. Et cette semaine donc, on teste les produits de rasage entre les rasoirs pour hommes, pour femmes, jetables, réutilisables, les crèmes et les lotions, on s'y perd. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas derrière tout ça un petit peu de marketing? Le rasoir est sur le fil dans un instant. Et puis l'épilation définitive est-elle une bonne idée? On met cette tendance à nu grâce à vous Valérie Leduc. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin en phlébologie esthétique, vous nous donnerez plein de conseils justement au sujet de l'épilation définitive. Comment réussir à coup sûr ces tartes maison, ces tartes poil avec vous Sonia? Et est-ce que non, car vous allez nous donner plein d'astuces de pro. Bonjour Sonia.
Bonjour,
merci d'être avec nous. Vous êtes venue avec une super tarte là d'ailleurs. Elle est à quoi?
Une tarte aux pommes, une tarte fine, ultra facile.
Très bien, super. Donc on sait ce qu'on va faire ce week-end. Mais pour l'heure...
On appelle. Je peux t'emprunter ton rasoir s'il te plaît? Le rose.
Rasoir Bic Rose de l'âme, pour nous, les femmes.
Il s'appelle Revieille.
Il s'appelle Revieng, il est avec nous, Mathieu Lemont, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, vous êtes rédacteur en chef adjoint du magazine GQ. Le poil, c'est votre dada?
Mon dada, je sais pas, mais...
Mais
c'est-à-dire que je suis un peu concerné par la question, effectivement, personnellement, mais après, tous les hommes sont concernés par la question. Donc oui, on en parle souvent dans le magazine. Ouais.
Voilà, on a l'impression en tout cas que le poil, c'est le dada des hommes aujourd'hui et que les femmes les éradiquent. Donc c'est vraiment une question de mode, tout ça?
C'est une question de mode, de tendance. Après, c'est vrai que ça a toujours existé. Après, ça prend des formes différentes.
Le poil a toujours existé.
Le poil et puis le fait de s'en occuper.
Oui, c'est ça.
Ça a toujours existé en un sens.
Donc, bon, et ça naît comment, toutes ces tendances, en fait? Ça naît dans les magazines?
Ça naît dans les magazines, dans les médias, dans la publicité, dans, et ça naît aussi là, plus récemment, c'est lié aussi à la pornographie qui joue un rôle important à ce niveau-là.
C'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire que quand on voit des acteurs porno sans poils ou des actrices porno sans poils et que beaucoup de l'éducation des jeunes se fait désormais par ça, même si on critique ou pas, mais ça se fait beaucoup par
bien
ça.
Sûr.
Et il y a une forme d'identification qui se fait. Et donc, on constate que voilà, quand on veut enlever des poils à certains endroits, c'est souvent par mimétisme avec... Avec ce monde-là.
Voilà. D'accord. Moi, j'ai l'impression quand même que les hommes aiment leur barbe en ce moment. D'ailleurs, vous êtes le premier à en avoir une, à en arborer une. Oui. C'est quoi? C'est une tendance qui date d'il y a quoi? Une
c'est
dizaine d'années?
C'est une tendance
d'années,
qui
quoi.
Est née, oui, il y a une quinzaine d'années avec ce qu'on appelait les hipsters qui ont décidé. On sait jamais trop comment naissent les tendances, mais voilà, d'avoir un atout de virilité en plus et ça passait par la barbe.
Ça vous plaît, Valérie Leduc?
Les hommes barbus? Oui, j'aime bien.
Sonia Esguillon.
Oui, moi j'aime beaucoup mon mari.
Moi j'adore ça. Moi j'ai toujours aimé
beau.
Ça.
C'est très viril.
Il voilà, c'était pas, y en avait pas tant que ça aujourd'hui. On a l'embarras du choix parce que tous les hommes sont barbus. Voilà. Non mais c'est vrai, moi je trouve que on vit une bonne période, hein, je trouve, en tout cas pour les femmes qui aiment les poils. C'est devenu un budget en fait aujourd'hui. Ça rentre dans le budget beauté des hommes.
Oui, ça rentre dans le budget. Alors maintenant, on n'achète plus de rasoir vu qu'on a des barbes. Donc en fait, le budget en question il s'est muté vers des huiles, vers des tondeuses, vers un budget. Aller chez le barbier coiffeur, c'est aussi un budget. Donc oui, en fait, là où avant on achetait des rasoirs et de la mousse à raser et des lames, maintenant on achète d'autres produits pour entretenir sa barbe.
Et franchement, entre nous, les rasoirs féminins, les rasoirs masculins, même combat, où il y a vraiment des produits spécifiques
Bah maintenant, il y a beaucoup de produits spécifiques, mais et la gamme elle est hyper large. Ça va du big jetable pour quelqu'un qui se rase tous les jours. Le bic jetable peut servir parce qu'il y a peu de poils à éradiquer, on va dire.
Ouais.
Et après, si c'est que de temps en temps, et ben là, on a des lames qui sont plus ou moins efficaces et plus ou moins nombreuses.
Ouais.
Et ça peut aller jusque. Désormais, ça existe le rasoir chauffant. On a un rasoir. Ouais, c'est un rasoir chauffant qui fait l'effet d'une comme quand on se pose une serviette pour apaiser la peau. Et c'est et là, on monte sur un rasoir qui est à 200€.
D'accord. Alors ça, voilà. C'est pour les hommes.
Ça,
vous êtes intéressé aux femmes ou un petit peu ou pas du tout?
Moyennement.
Non, mais est-ce que vous pensez que les... Alors moi, je vais me tourner vers votre voisine, Valérie Leduc, vous qui êtes spécialiste aussi de la beauté. Est-ce que le rasoir, c'est un atout beauté pour les femmes ou pas?
Non, complètement.
Il faut pas, il faut éviter. Ah bon?
Non, elles en veulent plus. Elles veulent toute l'épilation définitive.
D'accord. L'épilation définitive dont on parlera, mais une femme peut se servir d'un rasoir. Et même du rasoir de son mec, on s'en fiche en fait.
Quand on leur demande de se raser avant la séance, elles savent pas s'en servir. Elles le disent très bien. Elles me disent, j'ai pas l'habitude de me raser, je sais pas comment faire. Voilà.
Un produit réservé à ces messieurs, quoi.
Plutôt.
Oui. Plutôt, ouais. Mais après, ça dépend parce que quand il y a des
hommes qui laissent pas leur rasoir à leur femme. Hein.
Non, et puis quand il y a des hommes qui veulent se raser, par exemple, les aisselles, on va pas prendre le rasoir à 4 ou 5 lames, mais on prendra plutôt le petit rasoir jetable à 2 lames.
Il y a des hommes qui se rasent les aisselles.
Oui.
D'accord. D'accord. Bah, excusez-moi, j'apprends plein de choses sur les hommes aujourd'hui. Si, ça m'intéresse, quoi.
Si. C'est ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, c'est que sur le visage on veut avoir des poils, alors que sur le corps on les enlève. Et ça concerne aussi les hommes. Donc,
d'accord.
Il suffit de voir dans les salles de sport. Alors après. Vous, mesdames, vous n'avez pas accès au
vestiaire de ces messieurs.
Mais
ils font rarement leur sport torse nu, malheureusement. Donc
parce qu'il n'y a pas le droit, mais je peux vous le jurer qu'il y a beaucoup d'hommes qui se rasent le torse. Et donc, c'est assez paradoxal, quand même.
D'accord, oui, ils gardent des poils en haut, quoi. On va dire ça comme ça. Très bien. Vous parliez du nombre de lames, vous avez l'air de vous y connaître quand même un petit peu. Ça a de l'importance, ça ?
Oui, ça a de l'importance. Après, il y a, comme vous le disiez en début d'émission, beaucoup de marketing autour de ça. Parce que.
Ouais.
On peut évidemment se dire qu'entre un rasoir de lame et un à 5, celui à 5 va être plus efficace. Après, entre 4, 5, c'est monté à 7.
Ah bon?
Je vois pas trop.
L'intérêt.
L'intérêt après, ça peut être la qualité du poil, la longueur du poil. Donc tout ça, ça peut avoir
un impact.
Mais il y a quand même beaucoup de marketing autour de tout ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression de plus on dit qu'on a de lame, mieux on va être rasé. Alors que c'est pas forcément vrai parce que tous les rasoirs ne correspondent pas à toutes les peaux ni à toutes les barbes.
D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut quand même trouver son rasoir de prédilection.
Faut trouver son rasoir de prédilection.
Donc dans ces cas-là, l'idéal c'est quoi? D'aller voir un barbier
Déjà, les barbiers peuvent être de bons conseillers.
Métier tendance, le barbier quand même, depuis quelques années.
Les coiffeurs, il y en a de plus en plus et leurs carnets de rendez-vous sont pleins. Donc, on peut demander, mais après, c'est un budget. Faut en tester un, deux, trois et puis finir par se décider sur un qui va bien.
D'accord. Rasoir électrique, c'est bien aussi ou pas ?
Rasoir électrique, c'est bien quand on veut aller vite. C'est-à-dire que quand on a besoin de se raser et que c'est, par exemple, dans un cadre professionnel qu'on veut être rasé.
Par exemple, ce matin, vous étiez un petit peu en retard avant d'arriver dans notre studio. Vous avez fait appel à votre tondeuse électrique ?
Non, pas ce matin. Mais par contre, il y a les tondeuses maintenant. Il y a des tondeuses qui sont tondeuses à barbe et à cheveux.
D'accord.
Qui font les deux en même temps. Et ça marche exactement comme quand les hommes se font raser la nuque autour des oreilles. Et ça marche aussi pour la barbe, en fait. Où on peut
garder
une certaine longueur et jouer dessus.
D'accord. Ouais. Donc avec le sabot, c'est ça ?
Avec le sabot, tout à
d'accord.
fait.
D'accord. La moustache, le bouc, comment on l'entretient ?
Et bien là, pour l'entretenir, c'est. Le barbier aussi qui peut justement régulièrement, comme chez le coiffeur en fait, c'est exactement le même principe. Après au quotidien, il y a des huiles de barbe qui existent, qui sont spécifiques et beaucoup de marques en font. Après, le mieux c'est franchement l'huile végétale, qui est naturelle et qui agresse pas le poil.
D'accord. Au niveau du gel, quand on va se raser, on prend un gel ou on prend une mousse de rasage ?
Alors moi personnellement, parce que là, il y a un énorme débat. Je trouve que le gel permet d'être plus précis en fait.
Ok.
Alors que la mousse, on a tout de suite un gros paquet dans la main et on l'étale et ça fait effet Père Noël quoi, avec plein de mousse partout. Alors que avec le gel, on peut être beaucoup plus précis et en mettre à des endroits vraiment voulus. Par exemple, quand on a des poils qui sont sur les joues. On a une barbe, mais on a des poils sur les joues et on veut les enlever.
D'accord.
Je fais le geste là, vous ne me voyez pas, mais on a des poils sur les joues. Et ben, on est beaucoup plus précis avec un gel qu'avec de la mousse.
Alors, moi, je me souviens, pour moi, l'image de la virilité, c'était aussi mon père le matin qui se rasait, parce qu'à l'époque, il fallait être imberbe, qui se rasait et qui après se mettait donc de l'après-rasage, une lotion après-rasage. Je ne sais pas si vous avez ce souvenir, vous aussi. Ouais. On va en parler dans un instant, justement, et savoir si c'est toujours tendance et si effectivement, déjà à l'époque, ça valait le coup de faire ce genre de geste ou si c'était juste pour la frime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
On est ensemble jusqu'à 10h. Nous voilà bien, merci de nous être fidèles tous les samedis matins. Alors dans ce studio, on a une petite tarte fine aux pommes préparée par Sonia Isgulian. On va se régaler, mais ça ce serait dans un instant parce que pour l'instant on parle des poils. Alors, la perfection au masculin, moi, quand j'étais petite, c'était mon père, qui, après s'être rasé de près avec, effectivement, un rasoir jetable jaune, je me souviens, prenait une sorte de lotion après rasage et comme ça, ouais. Se donner trois petites claques comme ça avant de sortir de la salle de bain. Je le trouvais canonissime, mon père. Est-ce que ça vaut le coup, vous qui êtes notre invité Mathieu Lemot pour nous parler des poils, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment une fonction l'après-rasage?
Oui, parce que ça éteint le feu de la flamme, comme on dit, le feu de la lame, pardon.
Oui, qu'est-ce qui vous arrive?
Le feu de la flamme.
Qu'est-ce qui vous arrive?
Non, le feu de la lame, et donc oui, ça l'éteint. Alors après, c'est ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que c'était bourré d'alcool et qu'en fait, ça agressait la peau. Alors que désormais, toutes ces lotions hydratantes après rasage sont beaucoup plus soft. Donc, elles servent pour justement réparer la peau et puis pour la régénérer un peu derrière.
Donc, c'est pas que pour la frime, quoi.
C'est pas que pour la frime. Mais après, on peut toujours le faire en ayant la frime. C'est
oui.
pas un problème.
Non, mais ça peut très, très bien. Ça peut être très agréable à regarder. Est-ce qu'il existe une grande différence entre les rasoirs jetables et réutilisables, selon vous?
Et oui, parce que les rasoirs jetables, déjà
en termes d'environnement, non, c'est pas.
Oui, déjà en termes d'environnement, c'est pas hyper sustainable, comme on dit. Mmh. Et puis par ailleurs, les rasoirs jetables se cassent très rapidement, donc vaut mieux investir dans un bon rasoir. Ouais. Réutilisable qui peut faire un an.
Ouais. Dont on change les lames.
Mais d'ailleurs, les fabricants ont prévu le coup puisque maintenant ils vendent des packs où on a des lames pour l'année, donc on l'achète une fois et on a son rasoir et ses lames pour l'année. Et c'est fait pour.
Je pense à ces dames aussi, moi, parce que vous, quand vous vous rasez, le mot, vous renforcez votre poil. Non.
Oui.
Non mais est-ce que c'est ça? Non mais je sais pas. Moi, excusez-moi, mais je n'ai pas de barbe. Je ne sais pas. Mais à un moment donné, on n'a pas les mêmes poils. D'ailleurs, aux jambes, sous les bras, sur le torse, les joues, vous n'avez pas les mêmes poils.
Bah non, mais on l'épaissit en fait à force.
Voilà.
À force de le raser. Donc en fait, si jamais quelqu'un veut avoir une barbe, il faut d'abord commencer par se raser. Pas mal de fois pour justement.
C'est ce qu'on dit aux ados imberbes, en leur disant mais rase-toi, même si tu n'as pas de poils, c'est une réalité.
Voilà.
D'accord, ok. Alors qu'en est-il pour les femmes, justement, Valérie Leduc? Parce qu'on nous explique qu'il ne faut surtout pas nous raser, parce qu'on va renforcer justement notre poil et on va se retrouver avec une barbe sur les jambes. C'est une réalité?
Absolument.
Ou pas?
Déjà pour le visage, quand on touche même avec une pince à épiler, je ne parle même pas de rasage, on va stimuler le poil. Et donc je dis toujours, vous transformez du duvet en poil terminal, et ça, il ne faut surtout pas.
D'accord. Et c'est quoi le poil terminal?
Le poil terminal, c'est un gros poil bien épais, bien foncé.
Ça fait envie, c'est super.
Donc j'en vois malheureusement au cabinet parce qu'elles ont commencé à s'arracher les poils à la pince ou avec un rasoir.
Alors la pince à épiler, j'en profite. Après, on passera à l'épilation définitive. Mais en fait, vous savez, il y a des femmes qui dessinent vraiment énormément ou qui épilent énormément leurs sourcils et qui un jour n'ont plus rien.
Eh oui. Et ça, elle le regrette, parce qu'aujourd'hui, la mode est plutôt sourcils bien
Oui, mais mode ou pas mode, en fait, à un moment donné, on éradique carrément nos sourcils.
Absolument.
En les épilant.
Les sourcils, faut pas y toucher, faut pas trop les épiler, parce que sinon, on les perd, absolument. Par contre, sur le bas du visage, les joues, si vous y touchez, là, ça flambe.
D'accord.
Donc ne touchez pas à vos visages, soit faut décolorer.
On se regarde tous dans ce studio.
Bien, oui, il faut d'accord. venir et faire l'épilation au laser, voilà.
Je reviens d'une séance d'épilation.
C'est ça.
Oh, je reviens. Ça fait déjà 15 jours, quand même. Oh, ça me brûle. Maintenant, je sais ce que ressent un homard dans son faitout. Oh, j'ai tout essayé. Les glaçons, les rondelles de patates crues. Les glaçons, ça fond et les patates, ça cuit. Je me suis retrouvée avec un gratin dauphinois dans la...
Voilà, Elisabeth Buffet et son sketch donc sur l'épilation. Valérie Leduc, vous êtes notre invitée jusqu'à 10h. Vous êtes médecin en phlébologie esthétique, fondatrice du cabinet Médecine de la Beauté à Paris, dans le 8e arrondissement. Vous nous parliez de l'épilation définitive. On a l'impression que c'est le Saint Graal en ce moment en matière de poils pour les femmes.
Oui, absolument. Les femmes, aujourd'hui, la tendance est zéro poil partout. Donc, elles sont...
Partout.
La jeune génération...
Traque le poil.
Il n'y en a plus. Elles n'ont pas complètement tort, parce que souvent elles me disent qu'est-ce que je fais.
Ça a une fonction le poil quand même, excusez-moi, mais.
Alors, l'idée que ça protège contre. Non, je pense que l'hygiène est bien meilleure s'il n'y a plus de poils, en tout cas dans les parties intimes.
D'accord, ok. Ouais. L'épilation laser, l'épilation définitive, c'est la même chose?
Oui, absolument.
C'est quoi?
Alors en fait, le laser, c'est une lumière qui a une longueur d'onde et une cible. En l'occurrence, la cible, c'est le pigment du poil. Donc en fait, à chaque fois qu'on envoie un puce de laser, il va capter les zones où il y a beaucoup de pigments, c'est-à-dire le bulbe du poil, se transformer en chaleur, le brûler et l'éliminer définitivement.
Ça fait mal?
Ça pique.
Mais c'est... Ah, Non, mais ça pique.
Ça pique. Alors,
sur une échelle de 1 à 10, ça.
Il y a des zones. Hein, je veux dire, quand le poil est fin, on sent très peu. Et quand le poil est épais, comme au niveau du maillot, par exemple, ou les chevilles, on serre un peu les dents, ça va très vite. Et on envoie de l'air glacé en même temps, donc qui anesthésie la peau. Et en fait, c'est très bien supporté. Franchement, avec les nouvelles machines, normalement, on n'a pas de patience aux crèmes anesthésiantes.
Vous iriez, vous, Mathieu Lemot, faire une épilation définitive? Parce que vous savez que c'est bon pour les hommes aussi. Hein.
Oui.
Ah ouais, ouais, pourquoi pas.
C'est vrai, ça vous fait pas peur?
Il m'a dit oui,
génial. Ça vous fait pas peur, ça?
Non, parce qu'on m'a expliqué que c'était un petit peu comme le... Je sais pas, peut-être que c'est une bêtise, mais que ça ressemblait un peu au tatouage, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des zones...
Ça fait super mal, un tatouage.
Ça dépend justement où on se fait tatouer. Ouais. Il y a des endroits où la peau est plus dure.
Mais c'est pas forcément, pas forcément des endroits où il y a des poils.
Ouais, il y a des endroits qui sont plus tendres, donc qui sont forcément plus douloureux, mais bon... Voilà, faut souffrir, pas de beau.
Sonia Esguignan, ça vous inspire quoi tout ça? Parce qu'on vous entend pas beaucoup ce matin.
C'est-à-dire, par exemple, les sourcils éventuellement pour essayer, mais je sais pas, il faut tester la douleur.
Alors, les sourcils,
en fait.
On peut les faire.
On peut beaucoup... toucher au visage avec l'épilation laser?
Oui, alors on parle, il y a des choses qui. On dit que ça peut apporter une repousse paradoxale, c'est très rare. Moi, j'en ai jamais revu.
C'est quoi ça?
C'est-à-dire qu'on épile au laser le visage et il y a des poils qui repoussent.
Oh,
honnêtement,
là, pire.
Moi, je ne l'ai. Ça fait quand même plus de 15 ans que je fais de l'épilation laser, je n'ai jamais eu ça au cabinet.
D'accord.
Je crois que quand on a un visage très poilu, la seule solution, c'est l'épilation laser. On peut pas enlever la pince, on peut pas raser, et on peut pas décolorer parce que ça se voit. Donc
ça vaut tellement
le choix.
Ça vaut pour les hommes, par exemple. On pourrait éradiquer la barbe d'un homme.
J'en ai beaucoup.
Ah bon?
Ah oui.
D'accord.
Oui.
Et pardonnez-moi, mais alors les femmes peuvent avoir un duvet aussi.
Oui.
Moi, j'ai vu parfois des femmes se faire épiler le visage. Ça aussi, ça fonctionne
très, très
à l'épilation
bien.
Laser.
Oui. Oui,
d'accord.
Oui. J'en ai beaucoup et on leur sauve la vie. Hein, parce que franchement, avoir de la moustache et de la barbe, c'est compliqué pour une femme. Et on a beaucoup plus que ce qu'on croit.
On nous a confié aussi en préparant cette émission qu'il fallait avoir un poil particulier pour être éligible
absolument.
À l'épilation laser.
Alors, comme je disais tout à l'heure.
Moi, je pense que Mathieu, vous êtes un bon.
Oui, il est bien. Il a la peau
bon
claire.
Produit, vous.
Et
un bon spécimen.
On va tout savoir.
Un bon candidat. Ben non, mais on va vous dire pourquoi.
Absolument. Donc, c'est le pigment que le laser recherche. Donc, plus le poil est foncé, plus il va capter le laser, plus il va chauffer. Et mieux, il sera détruit.
Oui,
par contre, un poil blanc ou roux, le laser passe, on voit le poil qui ne bouge pas. Il ne capte pas. Donc, ça, c'est vrai. Il ne faut pas attendre d'avoir des poils blancs pour se dire, j'attends, j'ai le temps, je me ferai l'épilation laser plus tard. Parce que ça ne marchera pas.
Une pommade?
Alors, les pommades, on adapte les paramètres.
Pourquoi?
Parce qu'on risque de brûler, parce qu'il y a du pigment sur la peau. Et quand on envoie le puce laser, il va être capté par le pigment le premier en surface, c'est-à-dire la peau, et ça risque d'entraîner des brûlures.
Donc idéalement, il faut avoir la peau claire et le poil brun, le poil foncé. Ok, super. Le message est passé, on se retrouve dans un instant sur RTL. À tout de suite.
Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand. Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand.
Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Dans un instant, Sonia Esguignan va nous donner de bonnes recettes de tartes. Vous allez voir, vous allez avoir envie de cuisiner ce week-end. Mathieu Lemot nous a parlé des produits de rasage en ouverture d'émission. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on traque le poil.
Vous tombez bien. Vous allez me dire s'il y a un truc qui vous choque.
Là ?
Ouais. Vous voyez rien ?
Non.
Je me suis épilée.
Oh.
Les sourcils, connard.
Ah, d'accord.
La mobilité de Josiane Balasco pour Jacques Villeret et Gérard Lambin dans le film Les Frères Pétards. On parle de l'épilation définitive avec vous, Valérie Leduc. On l'a compris, c'est une épilation au laser. Toutes les peaux ne peuvent pas passer sous ce laser. Il faut avoir la peau claire et le poil brun. On peut épiler toutes les parties du corps. Mm-hmm. Ça pique, ça fait un petit peu mal, mais il y a un petit jet bien froid qui anesthésie la peau et qui fait que c'est supportable. Les femmes et les hommes peuvent avoir recours donc à l'épilation définitive. Quand on dit définitive, c'est définitif.
Oui, alors.
Ça, j'ai plus de poils, jamais.
Une femme qui va avoir des enfants après, elle peut avoir une stimulation du poil et avoir une petite repousse. Mais c'est exceptionnel. Franchement, c'est à vie.
D'accord.
Ça fait 15 ans.
Quels sont les effets secondaires?
Alors, les effets secondaires, c'est très rare. Hein. Si les paramètres n'ont pas été bien calculés, on peut brûler. Hein, c'est ce qu'on dit, une peau un peu foncée. Voilà.
Ouais.
Donc, il faut savoir que.
C'est pas rien.
Non, c'est pas rien. Donc, il faut essayer d'éviter et d'aller voir quelqu'un qui a l'expérience et qui sait faire. Et voilà. Et après, on a dit la repousse paradoxale sur le visage, mais c'est extrêmement rare. Hein.
D'accord, ok. Qui pratique l'épilation définitive? Un médecin, une esthéticienne?
Ouais. Non, des médecins. Au laser, ce sont des médecins. Et en l'occurrence, c'est mieux s'ils sont diplômés du diplôme de laser.
D'accord. Médicaux. Donc à vérifier oui, lorsque l'on absolument. Va dans un cabinet. Est-ce qu'il y a des contre-indications?
Oui. Alors la grossesse, même si c'est pas dangereux pour le bébé, on le fait pas. C'est une question de précaution. Et le bronzage récent, justement, à cause de cette couche de mélanine, de pigments à la surface de la peau, qui risque d'entraîner des brûlures.
D'accord.
Voilà.
J'imagine qu'à chaque zone, finalement, sa durée de traitement, oui. Je dirais. Oui. Combien de séances sont nécessaires en moyenne pour éradiquer
Entre 6 et 8.
Ouais.
Pour toutes les zones, sauf le visage. Le visage, je ne donne jamais de nom de séance parce que c'est un peu hormonodépendant. Donc, je leur dis que ça sera de mieux en mieux à chaque fois. Mmh. Mais je ne donne pas de nom de... Mais par contre, le corps, c'est entre 6 et 8.
Et quel est le délai entre chaque...
Un mois.
Un mois. Oui. Donc, pendant 6 mois, oui, en fait. Absolument. Donc, on s'y prend là quasiment maintenant.
Voilà, ça, c'est bien.
Pour cet été.
Il faut essayer de pas aller au soleil.
D'accord, entre temps, mais pour cet été. Voilà. Ok, très bien. Une séance, ça dure combien de temps?
Alors, demi-jambe, vaisselle, maillot, ça dure un quart d'heure.
Ah, c'est super rapide.
Extrêmement rapide. À chaque pulse, on traite un rond qui fait 18 mm de diamètre. Et ça va tic, 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 tic à toute allure. Et on avance très vite. Donc, en fait, quand les passages un peu douloureux, on n'a pas le temps de dire ouf que c'est déjà fini.
On est allongé?
Oui.
D'accord, ok. Financièrement, c'est un gros budget tout ça, non?
Alors moi, je trouve que c'est un budget, bien sûr, mais ça vaut le coup parce que c'est à vie. Hein. C'est deux, par exemple, je donne un exemple, 260 € TTC pour demi-jambe et maillot pour la séance. Mais c'est à vie, donc il n'y a plus besoin d'aller chez l'esthéticienne.
Alors 260 € que l'on multiplie par 6 ou 8,
absolument.
Et puis après, on n'entend plus jamais parler de nos poils.
Voilà.
Quoi. Ok. Bon, de toute façon, concernant les femmes, le poil ne redeviendra jamais tendance. Enfin, je veux dire, on va pas se retrouver...
Non, mais
quand t'as plus de poils et que, imagine, dans 10 ans, la mode est aux jambes poilues.
Ah, on n'est pas parti pour, en tout cas.
Vous savez, c'est quand même pas grave de pas savoir faire des tartes, hein.
Non, vous en faites pas.
Oh, mais je m'en fais pas, je m'entraînais jusqu'à ce que ça marche.
Vous voulez dire que vous allez en refaire?
Tous les jours.
Tous les jours?
Non, mais je vais varier les fruits, vous inquiétez pas.
Et vous allez varier la pâte aussi?
Non, mais n'exagérez pas non plus, je vous demande quand même pas de manger des briques.
Sans vouloir la ramener, la seule différence concrète avec des briques, c'est que vous appelez ça des tartes, hein.
Vous auriez pu nous dire que vous jouiez dans Kaamelott, Sonia Esgulian.
Oui, dans une autre vie. Dans une autre vie.
Merci d'être avec nous. Vous êtes cuisinière, auteur, journaliste. On vous a pas beaucoup entendu. Le poil, c'est votre dada ou pas, là?
Mais non, mais je ne sais pas.
Est-ce que vous avez appris plein de trucs aujourd'hui?
Oui, plein de trucs. Ouais. Mais d'abord que, en 6 séances, ça peut être réglé. Donc ça me bluffe.
Ça vous bluffe. Et vous aimez les hommes poilus, vous? Ça n'a rien à voir, mais moi, je me pose la question. Oui, c'est ça. Vous aimez un homme un peu.
Bien et un petit peu poilu aussi.
Très bien. Voilà. Le message est passé sur RTL. Bon, on parle des tartes maintenant.
Enfin, je l'ai, hein. L'homme poilu, donc.
Non mais moi, le message est passé pour moi. Vous permettez que je passe une annonce ou pas samedi matin?
Pas pour moi.
Voilà, donc les poilus, c'est pour moi. Sonia Esgulian a déjà un homme dans sa vie.
Voilà.
On parle des tartes.
Oui, hein,
parce
plaisir.
Qu'on a faim, parce que
avec
vous êtes arrivés, vous nous narguez là, avec vos petites tartes fines aux pommes. On n'a toujours pas eu le droit d'y goûter.
Non, je vais vous réconcilier avec la cuisine. Pour mais dire oui, que mais c'est facile.
Mais oui, alors ce qu'il y a de super avec les tartes, c'est qu'on peut les décliner à l'envi, comme dans Kaamelott.
Ah bah oui, alors en fait la tarte, c'est vrai qu'on va en faire tout un repas, aussi bien dans le registre salé que sucré. Et puis surtout, ce que je voulais montrer par la tarte que j'ai apportée aujourd'hui, c'était qu'on pouvait l'adapter à son degré de technicité en cuisine.
D'accord.
On n'est pas obligé d'être une super cuisinière pour faire une tarte, mais il y a quand même des astuces à connaître pour que la tarte soit vraiment top.
Alors avant de parler des astuces, c'est quoi la différence entre une quiche, une tarte, une tourte ?
Alors, une tarte, c'est un fond de pâte avec des ingrédients sur le dessus.
Ouais.
Une quiche, il y a forcément une préparation à base d'œufs qu'on va verser dans le fond de pâte. Et une quiche, c'est une préparation à base de viande ou de poisson ou de légumes qui est entièrement enveloppée dans de la pâte.
Ok, d'accord. Donc, il y a un truc qui est plus difficile à faire que l'autre?
Bah, la quiche, ça demande déjà une petite technique parce que ce qui fait vraiment la différence pour les quiches, c'est quand on a bien fait revenir tous les ingrédients avant de mettre. Souvent, on mélange les œufs, un peu de fromage, on se dit, bon, tiens, ça ira très bien, je vais couper 3 champignons, 2 petites courgettes. Mais ce qui fait la différence, c'est quand on a fait sauter les différents ingrédients, pas tout à fait la même cuisson, et qu'on les mélange avec l'œuf et qu'on les met dans le fond de pâte. Ça change tout.
Revenons à nos tartes, pâte brisée, pâte feuilletée, pâte sablée, même combat, ça a son importance, hein?
Ah non, ça a son importance. En fait, tout dépend de la garniture qu'on va mettre dans cette pâte. Alors en général, on choisira plutôt une pâte feuilletée quand la garniture est assez légère et une pâte sablée ou brisée quand la garniture est un petit peu plus, consistante. Sachant que la pâte brisée, c'est un peu la pâte passe-partout. Donc, si on n'avait qu'une à savoir maîtriser en fabrication, eh bien, c'est celle-ci qu'il faut apprendre à faire. Et c'est la plus facile.
Mathieu, Non, vous faites la cuisine ou pas ?
Oui, oui, en fait, j'avais une question, c'est bête.
Mais je vous en prie, mais oui, non, mais je suis là
je
pour ça.
Je me demandais s'il fallait pré-cuire la pâte avant, sans les ingrédients, au four, et alors, après, pour qu'elle reste croustillante, parce qu'après, sinon, souvent, les ingrédients, et des ingrédients qui sont gorgés d'eau, comme la courgette que vous venez de citer, la pâte devient toute molle, toute flasque. Alors, comment...
Alors non, on ne fait pas forcément pré-cuire, c'est une super bonne question. En fait, il y a deux astuces pour pouvoir obtenir une pâte très croustillante. Quand on a des ingrédients très humides, comme la courgette, la tomate ou autre, on va en fait étaler la pâte dans le moule. On va le mettre au froid assez longtemps. Ça, c'est important de bien laisser le moule avec la pâte étalée dans le réfrigérateur. On prépare la petite garniture. Et après, l'astuce, c'est de badigeonner en fait tout le fond de pâte de blanc d'œuf. Ça, c'est formidable. Ça fait une couche étanche. On met les ingrédients et on met au four. Quand on a des produits sucrés, on va mettre soit de la poudre d'amande, soit un peu de biscuit à la cuillère, soit du spéculoos, et ça marche formidablement. Vous faites une tarte à la framboise ou à la myrtille, c'est plus du tout détrempé.
On se retrouve tout de suite avec tous les conseils de Sonia Esguignan.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Et nous voilà bien. Après avoir parlé des poils, une petite récompense. On fait des tartes. Oh là là, c'est comme ça chaque semaine. On remercie Alexandra Polaxic pour ce petit clin d'œil qui nous dit à table. Allez, c'est l'heure de la tarte avec vous, Sonia Esguignan. Il en est un qui a plein de questions à vous poser. C'est Mathieu Lemot, Sonia.
Mais
on
oui,
se rend
mais
compte que Mathieu
fini,
est le roi de la tarte. Vous allez lui dire. Question d'abord, puisqu'on parle des tartes, on va parler des pâtes à tarte. Vous nous avez déjà livré des astuces. Est-ce que c'est compliqué de faire sa pâte soi-même ?
Non. Alors, il faut d'abord pas culpabiliser si on achète sa pâte toute prête.
Ah bah oui, moi je
on achète, si possible, pur beurre, jamais de margarine, jamais de trucs. On vérifie dans sur la liste des ingrédients que ça soit pur beurre et avec que des ingrédients qu'on peut identifier. Donc de la farine, de l'eau, éventuellement des œufs, mais pas autre chose.
D'accord.
Après, quand on veut faire une pâte, c'est vraiment pas difficile. On laisse son beurre à tempérer, donc on le laisse une demi-heure en dehors du réfrigérateur. Et ensuite, on va faire une recette assez simple. C'est assez facile à se rappeler. C'est à peu près 250 g de farine avec 125 g de beurre. Bon, effectivement, il y a un peu beaucoup de beurre. Mais bon, c'est ça qui rend aussi la pâte très bonne. On met un petit peu d'eau, 80 g d'eau. Alors, c'est plus facile de peser l'eau que de mesurer 8 centilitres. Donc, ça fait 80 g. On peut mettre un jaune d'œuf si on veut que la pâte soit bien, bien résistante. Évidemment, on met un tout petit peu de sucre, une pincée de sucre, un tout petit peu de sel. Et on malaxe le tout. Au bout d'un moment, votre pâte va commencer à former une boule. Et là, cette boule de pâte, il faut absolument la laisser reposer. Pourquoi ? Parce que ça évitera que la pâte se rétracte au moment où vous allez mettre soit vous allez mettre les ingrédients, vous allez mettre au four et hop, ça va se rétracter si vous n'avez pas laissé reposer votre pâte.
Et on laisse reposer à l'air ambiant ou au réfrigérateur ?
Toujours au réfrigérateur, ça c'est très important.
Au réfrigérateur.
Mais est-ce que l'air ambiant, part, alors
on fait la boule, on laisse. Ou,
d'accord.
Alors une astuce, quand on n'a pas beaucoup de temps, quand vous préparez la pâte à tarte, préparez plutôt 1 kilo, faites plein de petits morceaux et congelez-les, parce que ça vous fait gagner du temps. C'est exactement le même temps de préparer 200 g de pâte ou de préparer 1 kilo. Donc il vaut mieux préparer 1 kilo, faire des petits paquets et au congélateur. Après, l'autre astuce très très importante, parce que ce qui est important dans les tartes, c'est le croustillant. Pour avoir du croustillant, il faut absolument, quand vous démoulez, vous sortez la tarte cuite du four, en fait, on la démoule dès qu'elle... on attend 5 minutes, on la démoule et on la pose sur une grille. En fait, si vous laissez la tarte dans le moule, avec ou sans papier sulfurisé ou simplement dans
ça
le moule,
continue de chauffer.
Il va y avoir un petit peu de chauffe et surtout, il va y avoir de la condensation.
Ah.
Ça va avoir... pour effet d'avoir un peu d'humidité, ça ramollit la pâte. La grande différence, c'est pourquoi en fait les pâtissiers, ils démoulent toujours leurs tartes et ils les mettent sur une grille. C'est ça qui fait la différence. Alors si vous n'avez pas de grille, vous posez sur quelque chose à la maison, sur un dessous de plat qui est un peu aéré, etc. Ça va complètement changer. Et puis troisième chose, souvent on vous dit, il faut piquer le fond de pâte c'est pour éviter que la pâte gonfle. Mais piquer, ça ne veut pas dire trouer. Donc c'est très important de faire des petits pics légers. Simplement
avec
pour
une fourchette
parce que si on fait des trous, l'humidité passe à travers, ça détend le fond de pâte et c'est tout comme ça, tout flasque, tout pas bon.
Et la pâte, c'est vraiment indispensable ou pas ? Ah bah écoutez, je vous écoute parler, donc moi je mange.
Bah,
voilà.
C'est une pâte, ça s'appelle un fruit du coup.
Non mais c'est vrai.
Pardon.
Attends, parce que parfois on fait pas une pâte comme ça, on fait des pâtes avec des spéculoos, avec plein d'autres.
Bien
trucs.
Sûr,
ah,
on peut. Alors.
Eh bah ouais, monsieur.
Autre exemple.
Voilà.
On peut faire une tarte sans aucune pâte. On est bien d'accord qu'on peut briser des spéculoos. dont on une sorte de chapelure.
D'accord.
On va ajouter un tout petit peu, exactement, un tout petit peu de beurre fondu. On tapote bien, on tasse très fort sur le fond de tarte, dans le moule en fait. Et ensuite, par exemple, vous passez 10 minutes au four simplement pour que ça solidifie.
Et ça va tenir tout seul.
Bien sûr, et vous versez du chocolat fondu. Là, vous attendez que le chocolat soit bien dur. Et après, vous coupez des jolies parts. Ça, c'est top. La tarte que je vous présente aujourd'hui, elle n'a pas de pâte non plus. Je voulais vous présenter une astuce.
Ah,
en fait, vous pouvez faire des tartes fines aux pommes avec des crêpes, avec des tortillas. Là, c'est simple. Vous avez une crêpe à la maison, ou une tortilla, ou une petite galette, vous savez les petites galettes bretonnes. Vous coupez un disque. Ce que j'ai mis par-dessus, c'est de la crème d'amande que j'ai faite maison. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre de la crème d'amande. Vous pouvez mettre de la compote, vous pouvez mettre de la crème de marron, vous pouvez mettre un truc qui vous fait plaisir. Et ensuite, vous mettez les pommes coupées très finement. Et l'astuce pour que ça croustille, c'est que avant de passer au four, vous allez mettre un tout petit peu de sucre cassonade sur le plat qui va en fait accueillir vos petites tartes fines. Ça prend 5 minutes, on peut le faire avec les enfants, on n'a pas besoin de faire de pâte. Ça marche aussi bien pour une version sucrée comme celle-ci, mais je fais aussi des tartes à la courgette avec une galette bretonne, par exemple, c'est très très bon. En fait, la tarte, c'est pas forcément avec de la pâte qu'on va réaliser à la maison.
Oui, c'est vrai.
Vous avez mis combien de temps à la faire, celle-là, Cassie ?
Alors, celle-ci, parce que je me suis levée très tôt ce matin pour venir vous voir. Celle-ci, je me suis levée, on va dire, vers 6 heures et j'ai mis un quart d'heure. Même pas, un petit quart d'heure à la préparer. En fait, le plus long, c'est d'éplucher les pommes et de couper des tranches fines. Parce qu'après, en fait, on a déjà notre petite galette, notre crêpe ou autre. Et il suffit, en fait,
de
crème d'amande. Bon, ça, c'est une crème d'amande maison. En plus, avec les bons petits noyaux d'abricot qu'on a récupérés cet été, qu'on a cassés patiemment, etc. Et ça, ça donne ce petit goût amer. Et en fait, c'est vraiment le temps de couper les pommes et de les mettre au four 20 minutes.
Là, c'est coupé à la mandoline, vos pauvres.
Non, c'est très très. Quand on a un couteau bien aiguisé,
on fait attention à ses doigts. Justement, parce qu'on ne sait jamais véritablement comment disposer les fruits dans une tarte.
Alors en fait, pour la tarte fine aux pommes, ce qui est joli, c'est quand on a une tarte de 10 cm à peu près, ça prend une demi-pomme, donc vous épluchez une pomme, vous la coupez en deux, vous enlevez la partie avec les pépins, et ensuite vous posez la partie plate sur le plan de travail, et avec un couteau très bien aiguisé, parce que le secret des cuisiniers, c'est un couteau très très bien aiguisé. Vous coupez des tranches très fines, donc vous obtenez des demi-lune que vous allez disposer en serpentin sur cette sans trop les faire superposer, parce que ce qui est important, c'est de bien étaler pour que en fait ça soit très croustillant et que ça caramélise. Vous mettez le moins de sucre possible parce qu'il y a déjà la crème d'amande, vous n'avez pas besoin de mettre de sucre. Et les pommes là, ce sont des pommes golden qui sont déjà très sucrées. Donc en fait, vous avez pratiquement un petit peu de sucre dans la crème d'amande, mais pratiquement que le goût du sucre de la pomme.
On peut tout mettre comme fruit de saison, évidemment, dans une tarte.
On peut tout mettre. Alors après,
on peut pas essayer les agrumes ou tous ces trucs.
Bien sûr que si.
Ah ouais.
Alors dans ce cas-là, on va faire une technique qui est la cuisson à blanc. Qu'est-ce que c'est la cuisson à blanc ? J'étale ma pâte dans le moule. Je ne mets pas ma garniture. Je vais mettre soit les fameux légumes secs qu'on mettait avant. Aujourd'hui, il existe des billes en porcelaine ou en aluminium. En fait, on les pose, c'est très pratique. On étale ça dans le moule. Ça va bien lester, en fait, la pâte. On va faire cuire, selon la pâte qu'on a utilisée, 20-25 minutes, 180-200 degrés. Ça dépend si on a un four à chaleur tournante. Ensuite, on laisse un tout petit peu tiédir. On retire ces billes et on va ajouter, je sais pas, vous parlez d'agrumes.
Ouais.
Génial. On peut mettre, par exemple, des agrumes qu'on a coupés.
On n'est pas obligé de tout cuire, quoi, en fait.
On n'est pas obligé de tout cuire. Moi, par exemple, j'aime beaucoup la tarte au mangue et au litchi. C'est dommage de les cuire. En fait, on fait un fond de pâte. Et on rajoute ensuite les légumes, les fruits, par exemple, complètement crus.
J'en connais qui vont être contents ce week-end, non, Mathieu ?
Ah ouais, bah là, vous venez de sauver des années de goûter, là. Merci beaucoup.
Et puis j'ai une petite astuce aussi, si vous achetez de la pâte toute prête, en fait, vous saupoudrez la pâte de graines de sésame, de graines de fenouil, de différentes choses. Ça change tout, en fait. Elle a été achetée, mais comme les gens trouvent qu'elle a un goût formidable avec des petites épices... Là, vous bluffez tout le monde et on vous dit « Ah là là, mais tu es une sacrée grande cuisinière !»
Et là, on fait comme Valérie Le Mercier, on fait « C'est moi qui l'ai fait !» Voilà, c'est l'heure des bisous de Philippe. Catherine, des bisous pour vous, Mathieu Lemot. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci, merci.
Je rappelle que le magazine GQ, qui n'est pas réservé qu'aux mecs, parce que moi je trouve ça intéressant en tant que femme de lire GQ.
Ah bah oui, non, si on est...
Est actuellement en kiosque.
On est ouvert à tout le monde.
Voilà, merci en tout cas d'être venue nous parler produits de rasage. Valérie Leduc, merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes la fondatrice du cabinet Médecine de la Beauté, donc à Paris, dans le 8e arrondissement. Merci beaucoup. Sonia Esgulian, merci. Elle est trop bonne, votre tarte. Merci pour tous vos conseils. Vous avez sauvé des années de goûter de Mathieu Lemot et tout le reste aussi. Vous nous avez donné envie de cuisiner. Et toutes vos recettes sont sur les réseaux sociaux de nous.
Nous voilà bien. Merci Sonia. À la prochaine.
À bientôt.
Moi, je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, le magazine du partage et de la réflexion. La semaine prochaine, dans Nous voilà bien, vous apprendrez la vérité sur les crédits à la conso. Vous saurez si les additifs alimentaires sont dangereux pour la santé et vous découvrirez les astuces pour cuisiner la pomme de terre. Allez, passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Je vous embrasse.